L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro, j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Vous aussi, vous avez pour habitude d'offrir ou de recevoir des fleurs pour la Saint-Valentin ? Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière vos bouquets ? Si vous vous posez la question, alors restez avec nous, ce podcast est fait pour vous.
Bienvenue, nous sommes Julie Touge et Mathilde Ibon de l'école d'ingénieurs de Purpan, étudiantes en 5e année. Nous sommes dans les locaux de Campus FM et nous allons découvrir ensemble les coulisses du marché des fleurs pour la fête des amoureux et des amoureuses. Nous aurons l'honneur d'accueillir Hélène Taquet du collectif de la Fleur Française pour qu'elle nous explique comment rendre nos bouquets plus éthiques.
Dis-moi Mathilde, t'as une idée de pourquoi on offre des fleurs à la Saint-Valentin ?
Alors oui, mais alors j'étais quand même super choquée de cette origine un peu obscure de la Saint-Valentin. Je me suis renseignée et d'après le sociologue Jean-Claude Kaufmann, qui est auteur de « Saint-Valentin, mon amour », il dit qu'il y aurait eu au moins une dizaine de Saint-Valentin. Et que parmi l'un d'eux, il aurait été exécuté le 14 février 270, donc c'est là que serait née un petit peu la date de la Saint-Valentin, et qu'il aurait été exécuté parce qu'il aurait célébré des mariages chrétiens à Rome alors que c'était interdit. Et puis il se trouve que le 14 février, ce serait aussi le début de la saison des amours chez les oiseaux européens. Mais alors, quand on regarde vraiment un peu dans le détail, de la Rome antique jusqu'au Moyen-Âge, les premières célébrations qui sont associées à la Saint-Valentin, c'est plutôt violent, voire vraiment dérangeant, sans rentrer dans les détails. Et il faudra attendre le 15e siècle et l'amour courtois avec les Français et les Anglais pour qu'ils s'emparent de cette tradition et la rendent plus poétique, plus romantique. Et ensuite, c'est les États-Unis en tant que jeune nation au XIXe siècle qui vont devenir un peu friands de cartes et de poèmes amoureux et qui vont l'adapter dans leur calendrier. Et alors qu'en France, au final, c'est pas trop encore quelque chose de célébré. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale et les soldats américains qui vont venir courtiser des Françaises pour qu'en fait la tradition commence aussi à gagner en popularité. Et au final, c'est en 1950 qu'il y a un enjeu commercial qui devient vraiment clair. Et la cible pour la Saint-Valentin, ça devient le couple marié avec l'homme qui doit prouver son amour à sa femme en ce jour spécial. Aujourd'hui, c'est une fête qui est largement célébrée en Europe, mais elle n'est pas célébrée partout dans le monde. Par exemple, en Indonésie ou en Arabie Saoudite, on ne parle pas de la Saint-Valentin.
Ok, super. Donc ça, déjà, ça m'explique davantage pourquoi est-ce qu'on fête la Saint-Valentin. Mais est-ce que tu connais l'histoire des fleurs ? Pour la Saint-Valentin ?
Eh oui, alors il se trouve que les fleurs dans la Grèce antique faut remonter 2000 ans en avance. Et en fait, c'était la tradition autour de la fleur, cette fleur qui est à la fois symbole de romantisme, d'érotisme. Et en fait, c'est Aphrodite, donc la déesse de l'amour, qui a un peu répandu cette tradition de la rose, parce qu'elle, dans un poème un peu épique, elle aurait couru après Adonis, et en courant, elle se serait blessée sur les ronces. Elle aurait taché les roses blanches de rouge. Et c'est comme ça que la rose rouge, qui est le symbole par excellence de la Saint-Valentin, serait née. Cette rose qui est cruelle, qui rappelle l'amour passionnel. Voilà.
Ok, super. Pour savoir si le fait d'offrir des fleurs est si répandu que ça en France, nous avons interrogé quelques personnes. On vous propose d'écouter leurs réponses ensemble.
Qu'avez-vous pour l'habitude d'offrir ou de recevoir pour la Saint-Valentin ?
Ah, des fleurs le plus souvent possible.
Souvent, j'offre des fleurs à ma femme.
Je reçois plutôt des fleurs.
On se fait un petit repas que je prépare par mes soins et c'est souvent accompagné d'une petite fleur.
Du fromage.
C'est vrai.
Alors, je reçois pas souvent de cadeaux pour la Saint-Valentin parce que je la fête pas forcément, mais plutôt des fleurs.
En général, pour la Saint-Valentin, c'est moi qui offre. En général, ça peut aller avec des fleurs, des petits chocolats et une petite sortie entre amoureux.
un petit repas, un événement ou un bouquet de fleurs.
Alors, moi j'ai déjà offert une fois des fleurs à ma copine, mais une seule année. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, donc c'est pas très représentatif.
Souvent des fleurs.
J'ai l'habitude d'offrir des fleurs.
Ah ouais, donc bon, on voit bien que les fleurs, c'est quand même ce qui est privilégié à la Saint-Valentin. On n'est pas en train d'inventer quelque chose, quoi.
Effectivement, la Saint-Valentin, c'est une date clé. C'est le pic d'activité de vente des fleurs en France.
Et ouais.
Mais on peut aussi ajouter la fête des mères, la fête des grands-mères, la Toussaint et également Noël.
Mmh.
Et en fait, selon une étude MAPA, le marché des fleurs français, il représente 6 milliards d'euros par an.
Ça fait beaucoup, beaucoup de zéros quand même, là.
Effectivement. Et en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question, mais en fait, le marché des fleurs, en réalité, il est mondial.
Mmh.
En fait, selon France Radio Internationale, 85% des fleurs coupées qui sont aujourd'hui présentes dans nos vases, ils proviennent de l'étranger. Et parmi eux, 60% proviennent du Kenya. Et 9 fois sur 10, les fleurs, elles transitent par les Pays-Bas.
Ok, bon, en sachant ça, nous, on a décidé de questionner à nouveau les personnes pour savoir pourquoi les gens aiment offrir des fleurs et comprendre ce qui pourrait justifier au final qu'on importe et qu'on dépende autant d'un marché mondial.
Quelles fleurs recevez-vous ou offrez-vous le plus souvent pour la Saint-Valentin?
Moi, c'est le classique, c'est les roses et roses rouges en général.
J'aime bien les jonquilles, mais je ne sais pas si c'est de saison ou pas.
Oh, j'irais des roses.
Bonne question. J'irais des marguerites.
Soit des roses, soit des pivoines.
Une fois, j'ai reçu une rose, mais c'était une rose en plastique.
Alors, en général, je demande conseil aux fleuristes, mais je ne saurais pas te dire le nom des fleurs.
J'ai l'habitude d'offrir des roses, la fleur mythique de la Saint-Valentin.
En général, on m'offre régulièrement des amaryllis ou alors des fleurs coupées de saison.
Alors, je reçois pas de fleurs et honnêtement, j'ai aucune idée de ce que j'avais offert. J'avais demandé à la vendeuse à la boutique de me conseiller.
Mon mari m'offre des fleurs de toutes sortes, mais il y a toujours une rose dans le bouquet.
Bon, visiblement, Aphrodite a bien fait son coup parce que la rose, c'est bien cette fleur-là qu'on préfère pour la Saint-Valentin, visiblement.
Effectivement. Et d'ailleurs, selon la Chambre d'agriculture française, plus de 20 millions de bouquets de roses sont vendus par an en France, dont un quart pour la Saint-Valentin. Et selon une deuxième étude de Into the Minds, la vente de roses représente 80% des recettes des fleuristes en France. Entre la Saint-Valentin et la fête des mères, il y a environ 6 600 millions de roses qui sont vendues en France.
Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, ça pose la question de... Ok, on les achète chez les fleuristes, nos fleurs, mais elles viennent d'où, au final? Parce que c'est pas le fleuriste qui, a priori, les fait toutes pousser. Est-ce qu'ils ont une idée, les gens qu'on a interrogés?
Savez-vous d'où proviennent les fleurs que vous achetez pour la Saint-Valentin?
Oh, pas du tout, de chez le fleuriste. C'est tout ce que je sais. Je sais pas du tout la provenance.
J'imagine du Maroc.
Non, pas du tout. J'ai jamais posé la question à la fleuriste. Non, je ne sais pas.
Pas du tout, honnêtement, je ne me suis jamais posé la question.
Souvent, je pense qu'elles viennent de France.
Aucune idée.
Pas vraiment, en fait. Non, je ne sais pas du tout d'où elles proviennent.
Alors, en général, pour les amaryllis, malheureusement, elles viennent de loin. Et pour les fleurs coupées, elles viennent du marché.
Ouf, je dirais la Chine.
honnêtement, non, je ne me renseigne pas forcément.
Du coup, j'achète pas de roses pour la Saint-Valentin. Parce que du coup, je sais que c'est pas la saison des roses. Du coup, à chaque fois, comme je suis chez le fleuriste, je prends pas de roses.
Donc en effet, comme vous pouvez l'entendre, les roses voyagent énormément avant d'arriver chez nos fleuristes français. En fait, ce sont des fleurs avec un fort besoin de chaleur et de lumière. Et donc, elles sont généralement produites dans des pays bordant l'équateur, qui sont des pays chauds et ensoleillés. On peut citer notamment deux pays sur le continent africain, le Kenya, qui est le premier producteur de roses, et l'Éthiopie. Et ensuite, au niveau de l'Amérique du Sud, on retrouve également l'Équateur et la Colombie. Une fois que ces fleurs sont produites, elles sont acheminées vers les Pays-Bas et enfin, elles sont redistribuées dans toute l'Europe.
Oui, donc écologiquement, on voit qu'elles font un bon tour de la planète quand même. Hein.
C'est clair. Et même si dans nos esprits, le mois de février, les roses ne font qu'un, c'est pas le cas sur le plan biologique. En France, la culture des roses, elle est essentiellement faite sur les périodes de printemps et d'été. Mais comme la rose est devenue une fleur très populaire, les Français ont tendance à l'acheter toute l'année sans forcément regarder la saison. Et en réponse à cette demande, la rose est alors produite toute l'année
et majoritairement pas sur le territoire français.
C'est pas évident de se rendre compte de l'impact de la rose au final et de nos bouquets. Les gens savent vraiment ce qui se passe?
Bah écoute, Hortense Arang du collectif Fleurs d'ici, elle annonce qu'un bouquet de 25 roses, il équivaut au bilan carbone d'un Paris-Londres en avion.
Pff, c'est énorme.
En effet, le bilan carbone d'un bouquet de roses est super lourd. En fait, il combine production, transport, conservation, c'est un véritable gâchis énergétique.
Et j'imagine aussi, éthiquement parlant, les conditions de travail dont on sait souvent qu'elles ne sont pas optimales, voire très dégradantes en termes de droits humains. Si au final, offrir des roses, c'est problématique pour toutes les raisons que tu as citées, vers quoi on peut se tourner pour que ce soit socialement et écologiquement intéressant?
Mais bonne question. Il faut regarder les fleurs qui poussent en hiver et qui seront donc de saison pour la Saint-Valentin. On peut citer par exemple les camélias, les renoncules, le mimosa et bien d'autres. Mais on peut aussi penser aux fleurs à bulbes comme les jacinthes et les iris, qui en plus durent longtemps en pot. Si vous souhaitez plus d'inspiration, on vous invite à consulter le site du collectif de la fleur française dans la rubrique fleurs de saison pour trouver les fleurs adéquates à offrir pour la Saint-Valentin.
Ouais, super, super idée.
Et toi Mathilde, d'ailleurs, t'en connais d'autres, des solutions alternatives de sorte à acheter des fleurs françaises et de saison?
Oui, alors c'est important de garder en tête qu'il y a certains acteurs et producteurs qui se mobilisent pour reconquérir le marché français des fleurs. Par exemple, tu en as parlé, Fleurs d'ici. Le but de ces acteurs-là, c'est de mettre en avant une production « made in France », donc faite en France, via des démarches locales et qui respectent la saisonnalité. Et depuis en fait, les années 2000, on voit apparaître le mouvement « slow flowers », qui veut dire, en traduisant « fleurs lentes », qui suit aussi le mouvement « slow food », donc « nourriture lente », et qui englobe des démarches qui tendent à respecter la saisonnalité, respecter le « made in France », l'achat français, et qui sont des tendances qui sont en hausse globalement. Mais il y a aussi en fait plusieurs labels. Un label, c'est une étiquette qui marque l'origine et la qualité des fleurs. Ça met en avant une démarche de qualité qui valorise le travail des producteurs et des productrices de fleurs françaises. Et parmi ceux-là, il y a Fleurs de France. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ça concerne pas mal de bouquets, de plus en plus. Il y a 19% des Français, selon une étude Kantar 2019, qui connaîtraient ce label. Et il assure en fait que plus de la moitié des fleurs du bouquet soient produites en France. Pour le retrouver, pour nos auditeurs et auditrices, il faut chercher le petit logo hexagonal sur les bouquets avec les couleurs bleu, blanc, rouge. On a aussi, par exemple, le label Plantes Bleues, qui, lui, se concentre surtout sur les bonnes pratiques environnementales et sociales pour les fleurs et végétaux qu'on va trouver dans les bouquets et qui va, par exemple, regarder à l'économie d'eau, la réduction de pesticides, la gestion des déchets. Et puis, on a aussi, par exemple, le label rouge et, évidemment, le label agriculture biologique qu'on ne présente plus trop parce que je pense qu'on en entend pas mal parler, mais il existe, du coup, aussi pour les fleurs.
Ok, super. Mais donc en fait, en réalité, pour que l'éthique rime avec le romantique pour la Saint-Valentin, c'est complètement faisable.
Oui, complètement, complètement. Il faut juste bien regarder, quoi.
Dans quelques instants, nous allons accueillir notre invitée Hélène Taquet pour mieux comprendre comment sont cultivées et valorisées les fleurs françaises. Mais d'abord, place à un peu de musique pour rester dans le thème. Restez avec nous, on revient dans 2 minutes.
L'amour dont on parle toujours, à l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour dont on parle toujours, l'amour, mais la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre.
venons d'écouter L'Amour, un titre de Bon Entendeur et Mouloudji. Nous sommes dans l'émission Agro J'écoute sur Campus FM et nous parlons du marché des fleurs associé à la Saint-Valentin. Tout de suite, nous avons l'honneur d'accueillir Hélène Taquet, représentante du collectif de la Fleur Française. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, merci.
Super, merci d'être là pour notre émission Agro J'écoute. On a quelques questions à vous poser, si vous êtes d'accord.
Bien sûr.
Ok, super.
Est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pouvez peut-être nous présenter un peu le collectif dans lequel vous travaillez ?
Le collectif de la Fleur Française est une association que j'ai créée en 2017. L'objectif, c'était de mettre en ligne un annuaire qui regroupe les professionnels de la fleur coupée, c'est-à-dire les producteurs, les fleuristes qui vendent plus de 50% de fleurs françaises et les grossistes qui sont les plus impliqués dans la revente de fleurs françaises. Pourquoi cet annuaire ? L'idée, c'était d'offrir un outil pour les consommateurs pour trouver justement des fleurs françaises coupées. Ce qui n'est pas si évident que ça à trouver aujourd'hui sur tout le territoire.
Ouais, on a vu ça, il faut bien regarder quand même, sinon on se fait vite avoir. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des pratiques durables qui sont mises en place au sein du collectif et qui permettent de justement minimiser l'impact des bouquets sur l'environnement, etc.
Alors, il y a des pratiques durables de tous les côtés, en fait. Toute la filière est concernée, c'est-à-dire que ça va de la production jusqu'à la vente, mais en passant aussi par les grossistes. Donc, la liste est très, très longue. Je pense qu'on n'aurait pas le temps de tout énumérer dans votre émission. Commençons par la production. Les fleurs demandent peu d'intrants et les producteurs, les nouveaux producteurs sont très concernés par tout cela, donc essaient de minimiser tous les produits chimiques. Déjà, les normes agricoles françaises sont très très strictes, les plus strictes au monde, donc on peut dire qu'on cultive plus propre que propre en France, mais la fleur en plus est très peu demandeuse. Donc, voilà, on peut dire que c'est une fleur très saine. Elle est cultivée globalement en serre froide ou en extérieur, bien sûr, plein champ. Mais dès qu'on est sous abri, on est en serre, c'est ce que je vous dis, froide ou en tout cas gardée hors gel. Voilà. Après, ça, ce qui va lier en fait la production à la vente, même en passant par le grossiste, c'est l'emballage. Donc, on limite au maximum toutes les matières plastiques. On emballe à l'eau, donc on évite les cartons. Donc, tout ça, ça se passe dans des bacs réutilisables qui font le voyage entre le producteur et le fleuriste, parfois via le grossiste. L'objectif de la relocalisation de production en fleurs, c'est justement que toutes ces fermes s'installent près des grands centres de consommation ou près des caches de grossistes, ce qui évite justement le transport. J'entendais dans votre émission, vous parliez des émissions carbone. C'est vrai que le fret aérien est énorme pour la fleur. Et je pense que ce qui va s'inscrire dans l'histoire, c'est qu'on ne pourra plus utiliser ces moyens de transport, surtout pour transporter des fleurs, alors qu'on peut les cultiver chez nous. Voilà.
Excusez-moi si je peux rebondir par rapport à ça,
oui.
Par rapport au bassin de production des fleurs, parce que là c'était important, du coup vous parlez du transport et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quels sont les bassins majoritaires de production de fleurs en France ?
Alors, le bassin historique, c'est le sud-est, donc c'est-à-dire toute la région varoise, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Donc là, c'est encore là où il reste la plus grosse concentration de producteurs. Il y a à peu près 200 producteurs qui livrent au marché aux fleurs de hier, okay. Qui est le seul marché au cadran français. Ensuite, il y a peu de fermes, mais des fermes importantes en Île-de-France. Il y en a une quinzaine en tout, mais ce sont des grosses fermes qui concentrent entre 4 et 6 hectares chacune. Ensuite, il y a le sud-ouest, où il y en a quand même pas mal, et il y en a beaucoup qui se créent, et la Bretagne.
Et est-ce que vous savez combien de producteurs il existe en France? Est-ce que vous avez une idée à peu près du chiffre de ces producteurs?
Aujourd'hui, on en compte autour de 500 à peu près.
D'accord, avec donc des tailles de structures plus ou moins grandes, d'après ce que vous disiez.
Oui, alors c'est la grosse différence avec une époque où on avait 8000 floriculteurs en France, donc il y a 40 ans à peu près. Mais aujourd'hui, on a énormément de modèles. Il faut être très ouvert à tout parce qu'il y a des gens qui font ça en complément donc de salaire d'une autre activité. Il y a des gens qui font ça en diversification, comme des maraîchers ou des agriculteurs qui diversifient aussi parce qu'on a une obligation de rotation de culture. Et puis sinon des modèles classiques et des fermes plus importantes qui décident de faire moins d'espèces mais en plus grosse quantité. Donc vous voyez, on a une multitude de modèles aujourd'hui en France.
Peut-être que, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être des défis que rencontrent les producteurs de fleurs ou de roses en France?
Alors donc là, il y a deux questions. Okay. Le plus gros défi, c'est la logistique, pour faire court, parce que même si on décide de produire localement, on sait bien que en ce moment, justement, en hiver et notamment à la Saint-Valentin, puisque c'est l'objet de votre émission, il y a quand même la plus grosse partie des fleurs produites sont dans le sud de la France et notamment dans le Var, et il faut quand même les acheminer partout en France, vous voyez. Et les chaînes logistiques ont disparu en fait au fil du temps. Donc on est en train de remettre ça en place et puis surtout de cultiver des espèces adaptées à chaque région et à chaque période de l'année.
Et justement pour rejoindre cette question, quelles stratégies adoptent les producteurs pour répondre à cette demande croissante et à ces défis-là dont vous avez parlé?
Quelle stratégie adoptent les producteurs de cultiver de plus en plus de fleurs pour pouvoir répondre à la demande, en fait, hein, parce que la demande est forte, mais je vous dis, la filière, comme on reconstruit une filière, c'est comme toute chose, toute reconstruction demande de l'organisation. Et comme je vous le disais, il y a une multitude de modèles maintenant. Donc, c'est pas si simple, en fait, de réorganiser sans logistique, sans fournisseur, puisque pour finir sur la rose, justement, tous les obtenteurs de roses ont quasi disparu en France. Il en reste très peu, il en reste 3-4 aujourd'hui, avec le plus important qui est Meillan, et qui en fait ne cultivait plus de roses à couper pour le marché français, puisqu'il n'en vendait plus. Et donc toutes les variétés qui ont été obtenues étaient pour le marché kényan ou d'Amérique du Sud. Donc en fait là, on est en train de faire un partenariat avec Meillan pour justement relocaliser la production de roses.
Super, c'est hyper intéressant et merci de nous présenter cette démarche parce que je pense que ça va intéresser plus d'une personne pour pouvoir soutenir les producteurs et productrices françaises qui s'engagent pour relocaliser le marché et refaire fleurir un peu tous les bouquets en France, quoi. C'est super.
Merci beaucoup de toutes vos explications.
Merci à vous.
Merci Hélène Taquet, et puis on va vous dire à bientôt peut-être.
Ah, oui, à bien. Et puis puisque vous êtes dans une école d'agro, j'ai écrit un livre qui s'appelle Oser la ferme florale et
d'accord,
qui va plus loin justement là-dessus et planter des fleurs de saison chacun dans vos jardins, c'est bon et toucher les fleurs rend heureux.
Bon, c'est super. Merci beaucoup pour cette info.
Merci.
Merci
beaucoup.
Bonne journée. Il est donc possible d'offrir des fleurs avec un coût environnemental plus faible, mais avec une valeur romantique tout aussi importante.
Et oui, on peut l'avoir entendu plusieurs fois dans cette émission. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de tout ça? C'est que, bon, les roses à la Saint-Valentin, on oublie et on lui préfère des fleurs de saison, comme la jacinthe, les camélias ou la giroflée. Et puis, on achète français et local, car des fleurs qui voyagent plus que nous, on est d'accord, c'est next.
Et bien sûr, on continue de s'offrir des fleurs, et pas que pour la Saint-Valentin, parce qu'il n'y a jamais trop d'amour sur cette planète. On n'oublie pas de penser aux fleurs françaises, aux fleurs de saison et aux labels.
T'as complètement raison. C'était une émission de Campus FM pour le podcast Agro J'écoute, en partenariat avec l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université de Toulouse, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la région Occitanie. Un grand merci à notre intervenante Hélène Taquet et un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. À bientôt !